Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi. Nous sommes à la fin de l'année, c'est pourquoi aujourd'hui nous ferons la rétrospective avec nos confrères de quelques grands faits d'actualité qui ont dominé cette année 2007. Sur le plan politique, nous parlerons de la tenue prochaine de la conférence sur la paix dans les deux Kivus. Toujours sur le plan politique, nous reviendrons sur le bilan de l'an 1 de Joseph Kabila en tant que chef d'État élu. Et sur le plan économique, nous reviendrons sur l'adoption du budget 2008 à l'Assemblée nationale et la signature cette année d'un contrat de 8,5 milliards de dollars américains entre la RDC et la Chine. Ce contrat porte sur la construction par la Chine de quelques infrastructures à travers le pays. Enfin, sur le plan social, nous évoquerons les différentes grèves qu'a connues le pays en 2007, notamment celle des enseignants du primaire et du secondaire, celle des enseignants de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, qui continuent d'ailleurs leur grève, ainsi que celle de médecins de Kinshasa, qui vient tout juste de commencer. Nous avons invité trois confrères ce soir. Maurice Bokoko, directeur des informations de Canal Congo Télévision CCTV, Victoire Eyobi, directeur de publication du magazine économique Entreprendre et correspondant du Forum des As, et Louis-Paul Eyengasana du desk politique du quotidien Le Potentiel. Commençons cette tribune de la presse rétrospective de l'année 2007 sur le plan politique d'abord. Depuis août 2007, l'armée nationale congolaise combat dans le Nord Kivu les insurgés fidèles à Laurent Kunda. Pour résoudre ce problème, il sera organisé à partir du 27 décembre 2007 à Goma une conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les deux Kivus. La conférence sur la paix au Kivu démarre donc le 27 décembre prochain à Goma. Elle regroupera 500 participants dont les représentants des groupes armés. Ce général Laurent Kunda sera-t-il de la partie? Réponse de Vital Kamere, membre du comité préparatoire de cette conférence. Il est au micro de notre confrère Georges Kamoudjova.
Il n'y a aucun participant qui a été choisi jusqu'à ce moment. Le choix va se faire à partir de la base. Ceux qui sont ici à Kinshasa, qui sont venus participer à nos travaux, vont retourner à Goma et à Bukavu et ils vont organiser, suivant les critères que nous avons définis, la désignation des participants à la conférence. Nous avons dit que c'est une conférence qui va mettre à profit l'examen de toutes les questions qui touchent à la fin de la guerre. Nous allons faire la conférence avec ceux qui sont dans la logique de la paix et ceux qui sont dans la logique de la guerre.
Monsieur le Président, Laurent Kunda ne sera pas invité.
Moi, je ne suis pas là pour parler des individus. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé si Maéché, si Mouendoua, si Mirimo, quelqu'un ne sera pas là? Non, je ne suis pas là pour parler des individus. Mais j'ai dit que c'est une conférence inclusive. Donc, son mouvement, le CNDP, bien sûr, sera à cette conférence parce que nous ne pouvons faire la paix qu'avec ceux qui sont en train de faire la guerre. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils seront là, mais ce n'est pas moi de faire le porte-parole du CNDP.
Voilà, j'ai devant moi quelques journaux d'aujourd'hui, par exemple le Palmarès, dans sa une, qui titre « Conférence sur la paix dans le Grand Kivu, déjà la confusion ». Et j'ai devant moi aussi la tempête de tropique de ce vendredi, qui à la une titre également « Conférence de Goma, un moyen pour le PPRD de négocier avec Nkunda sans perdre la face ». D'abord, votre réaction, Louis-Paul Eyengasana, je rappelle que vous êtes du desk politique du quotidien Le Potentiel, paraissant ici à Kinshasa. Votre réaction par rapport aux déclarations de Vital Kamerhe, selon lesquelles même les délégués de Laurent Kunda pourront participer à cette conférence sur la paix, la sécurité et le développement des deux Kivus?
C'est une réaction positive dans la mesure où il est question de pouvoir privilégier la paix là où il y a eu la guerre. Et nous avons évoqué la semaine passée que la guerre où la force a montré ses limites et il fallait nécessairement négocier. On ne pouvait pas avoir de scrupules pour dire que négocier ou dialoguer, ce n'était pas un véritable opportunité. C'était une opportunité qu'il fallait nécessairement saisir. Et c'est ça la réaction. Je suis aussi, en tout cas, confiant. J'ai confiance que les leaders du Kivu vont saisir cette opportunité pour se retrouver là.
Victoire Eyobi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre et correspondant du Forum des As, paraissant ici à Kinshasa. Est-ce que vous partagez le même point de vue que Louis-Paul Eyema?
Oui, je crois que cette conférence est la bienvenue. Vous savez, c'est depuis le mois de mai 2007 que cette idée date. C'est venu pratiquement du gouvernement, mais le temps est passé comme cela. Je crois que cette fois-ci, il y a lieu de saisir l'opportunité. D'abord, de voir comment redynamiser le front intérieur. Vous savez, avec tout ce qu'on a connu sur les champs de bataille ces derniers jours, il fallait quelque part réquinquer l'esprit des populations, des forces vives, pour éviter une certaine démobilisation à la base. Donc, dans un premier temps, on va resserrer les rangs, mais dans un deuxième temps, il faudra vider la quintessence des revendications de Laurent Kunda et ses troupes qui disent qu'ils combattent au nom d'une population, d'une ethnie qui semblerait être exclue. Je crois qu'au travers de cette conférence, avec la présence de toutes les ethnies, de toutes les forces vives, cette raison n'aura plus lieu de tenir.
Mais Victor, excusez-moi, il y a peu vous parliez de l'option militaire qui devait continuer. Oui, vous avez changé d'avis.
L'option militaire demeure. Vous savez qu'au moment où nous parlons, les combats continuent. Il y a par-ci par-là des attaques qui sont en train d'être perpétrées. Donc ce sont les deux volets sur lesquels le gouvernement est en train d'avancer actuellement. Sur les terrains, nous défendons les territoires et les populations, mais sur l'autre volet, il y a le dialogue, il y a la réconciliation qui est en vue, il y a la négociation qui est en vue. L'un comme l'autre ne s'exclut pas. Mais le plus important, c'est de donner un message fort à la communauté internationale que les Congolais ne veulent pas de cette guerre, et cette guerre n'a pas de justification au moment où nous voulons relancer l'économie de notre pays, nous tendre la main pour rebâtir le Congo qui a longtemps été détruit.
Maurice Bokoko, est-ce que vous êtes en ligne maintenant?
Oui, Claude, je suis en ligne, mais les conditions ne semblent pas être bonnes. Bon, j'ai essayé d'intervenir. Allez.
Maurice, vous êtes le directeur des informations du Canal Congo Télévision CCTV. Avant de répondre à notre première question, une décision du ministre de la Communication et des Médias, communiquée cette semaine, autorise de nouveau le fonctionnement de certaines stations de radio et de télévision qui avaient été interdites de diffusion. Est-ce que Canal Congo Télévision, au sein de laquelle vous travaillez, a bénéficié de cette mesure?
Non, pas du tout. Malheureusement, on est toujours fermé. Là, je dis justement du ministère pour savoir ce qui s'est passé réellement, parce que nous avons pensé que nous allions être ouverts. Malheureusement, on n'est pas ouvert. Il y a des conditions qui ont été encore maintenues. Je pense que dans quelques jours, si nous déposons certains documents qui sont demandés, nous avons été ouverts.
Mais j'ai appris quand même, moi-même j'ai suivi que Canal Kin a quand même reçu l'autorisation de fonctionner.
Oui, Canal Kin fonctionne. Canal Kin, comme nous l'avons dit, était fermé illégalement. Illégalement, Canal Kin avait tous les documents, donc c'est normal que Canal Kin puisse fonctionner. Mais nous avons produit tous les documents demandés par contenu dans la loi relative au fonctionnement de la liberté de presse au Congo. Conformément à la loi 96, fixant les modalités de la liberté de presse au Congo. Nous avons produit tous les documents. Mais maintenant, on nous exige de déposer les documents qui sont liés, je ne sais pas, par exemple, on nous demande de donner, d'exhiber les documents relatifs à notre prestation au niveau de l'INSS, de affiliation de l'INSS, affiliation de l'INPP, des choses qui ne relèvent vraiment pas de la presse. Voilà, donc, ce sont des documents que nous avons produits.
Est-ce que vous êtes encore en clandestinité comme la semaine passée?
Oui, bien sûr.
Et quelle est votre analyse par rapport à la tenue prochaine de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans le nord et dans le sud Kivu? Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale qui fait partie du comité préparatoire de cette conférence, a dit que tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces affrontements nord Kivu seraient impliqués dans cette conférence, notamment les délégués de Laurent Kunda. Qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, Claude, je reste toujours serein, je reste toujours égal à moi-même. Et qu'il y ait ce genre d'initiative, eh bien, c'est à louer. Nous sommes d'accord avec toutes ces initiatives. Mais comme quand le président Kamere dit tous ceux qui sont impliqués des noms des traités, qu'il entend par ceux qui sont impliqués des noms ou des
traités. Non, ça c'est moi qui emploie ce terme. Hein, donc, voilà.
Ok, d'accord. Mais ceux qui vont venir, qui feront partie de cette conférence, viendront tous. Et quel est leur degré d'implication dans la situation au Congo? Donc, si les véritables gens qui menacent le Congo ne sont pas impliqués, eh bien, il n'y aura rien. Je veux bien que ces initiatives-là viennent, mais moi, je dis toujours qu'on est en train de distraire les Congolais. Parce que dès lors qu'il y a des politiciens congolais qui sont intéressés dans les affaires, ne sont pas, eh bien, ne quittent pas, ne gâchent leur volonté de faire des affaires, ça sera toujours un échec.
Rapidement, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais je voulais dire, vous savez, dans ces affaires-là, moi je dis, il faut toujours se référer au passé, Claude. Dans le rapport de l'ONU, il y a des Congolais, il y a des étrangers qui ont été cités, qui profitent de la richesse du Congo. Donc tant que ces gens-là ne sont pas inquiétés, eh bien, les rencontres peuvent être multipliées, il y aura bien de bon. Parce que ce sont eux, justement, qui copient, comme on dit, de ces gens de réunion, et ils se communiquent avant ce qu'ils doivent faire.
Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que la guerre enrichit certaines personnalités politiques.
Mais bien sûr, c'est clair, ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurice Bokoko. Lipol Iyengasana, vous êtes du desk politique du quotidien Le Potentiel. Que faut-il faire pour que cette conférence puisse réussir?
Il faut d'abord qu'il y ait un meneur. Apparemment, qui organise ça? Que veut-il? Il faut qu'il y ait quand même un meneur. Est-ce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans le Kivu, il y a un leader qui est capable de rassembler tous les fils et toutes les filles du Kivu?
Vous pensez qu'il n'y en a pas?
Je ne sais pas, c'est un mensonge. Je ne sais pas. Parce que c'est autour de ce meneur-là qu'on pourrait trouver une solution de paix. Parce que, apparemment, à mon humble avis, c'est une observation, c'est une opinion. J'ai la nette impression que les personnalités politiques du Kivu sont divisées. Sont divisés sur la manière même de conduire cette conférence-là.
Qu'est-ce qu'ils veulent?
Mais c'est ça, justement, nous ne savons pas.
Et cette division porte sur quoi?
Ben, de toute façon, il y a lieu de pouvoir régaler. J'ai une certaine documentation sur ce qu'ils attendent comme résultat. Il faudra créer une adhésion, le résultat attendu, selon le document qu'ils ont préparé, et ils ont soumis ce document auprès du chef de l'État, l'adhésion populaire aux objectifs de la conférence. Ça dit quoi? Faire le diagnostic de la situation qui trouve au nord et au sud Kivu, et essayer d'établir une compréhension commune des causes et des conséquences de l'insécurité. C'est vraiment ce qui est très important, c'est ça. Et alors, qui doit mener, qui doit un peu canaliser toutes ces ambitions-là? Je ne sais pas. Qui organise?
Victor Ryobi, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour la réussite de cette conférence qui commence le 27 décembre prochain?
Il faut éviter dans un premier temps de politiser la démarche. C'est vrai que l'idée est venue du gouvernement, mais il faudrait que la base du Nord et du Sud Kivu puisse s'approprier cette idée et ça impliquait de manière concrète. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas que le côté officiel puisse prendre un peu trop les devants dans l'organisation comme dans le déroulement. Or actuellement, on voit le président du Parlement qui est à la tête, on voit les membres du gouvernement qui pratiquement semblent prendre toute l'organisation entre les mains. Ça met mal à l'aise les chefs coutumiers, les notables, les différentes forces vives qui viennent, ils sont pratiquement pris en charge. Donc même le schéma des réflexions, le schéma des débats semble un peu orienté, ce qui n'est pas bon. On aurait aimé qu'au travers de cette conférence, que les forces vives s'expriment normalement, expriment exactement le fond de leur cœur, comment ils pensent revivre la paix, d'autant plus que le principal victime, ce sont toutes ces familles, toutes ces personnes qui viennent de Goma, qui viennent de Bukavu. Donc, le fait d'organiser la conférence à Goma, ça ne suffit pas. Il faut encore qu'on laisse, qu'on donne assez de place à l'initiative de la base, plutôt que de voir l'officiel s'imposer, parce que l'officiel dispose de tous les moyens. D'abord, il y a les frais qui sont dégagés pour l'organisation. On va louer des hôtels, il y aura des avions à fréter, il y aura, je ne sais pas, des pertes. Et tout ça, ça enlève la quintessence même de la démarche.
Merci beaucoup. Cette année était aussi caractérisée sur le plan politique par le premier anniversaire de Joseph Kabila en tant que premier chef d'État congolais élu au suffrage universel direct. Maurice Bokoko, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis en ligne, Claude, aussi.
Alors, quel bilan faire de cette première année de la présidence de Joseph Kabila? Y a-t-il vraiment eu rupture par rapport aux années sans autorité démocratiquement élue?
Écoutez, vous l'avez dit, bien sûr, il y a eu rupture par rapport aux années passées, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu cette élection de Kabila au suffrage universel direct. Donc ça c'est déjà quelque chose de positif. Mais quant au bilan de Kabila, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien qui est fait. On a parlé des institutions qui ont été mises, mais on peut se faire que c'est une apparence. Quand les élections, on les organise, je pense, pour qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une assemblée, qu'il y ait un sénat, etc. Donc on ne peut pas parler de ça comme un bilan. Le bilan, c'est depuis le jour où le président prêtait serment le 6 décembre 2006, par rapport à 2007 aujourd'hui, qu'est-ce que le président posait comme acceptable? Il n'y a rien, parce que le président était massivement élu au nord et au sud du Kivu, du moins à l'est, parce que justement, il avait promis à la population d'apporter la paix. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue, les gens se déplacent. Donc,
mais il y a quand même un processus pour régler ce problème.
Mais quel processus?
Cette fameuse conférence sur la paix dans les deux Kivu.
Mais après combien d'années? En globe, on a dépassé le 6 décembre. Donc, c'est déjà deuxième année. Donc, il y a rien qui a été fait. Il n'y a rien. Sur ce plan-là, il y a rien. Donc, Kabila, en tout cas, personnellement, son bilan est largement négatif.
Merci beaucoup. C'est un point de vue qui vous engage, bien sûr. Mais, Victoire et Yobi, est-ce que vous partagez le même point de vue que Maurice Bokoko? Rapidement, s'il vous plaît.
Absolument pas, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de choses. Nous sommes un pays, nous sommes une nation. Il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que les dirigeants, mais on a senti un mouvement réel, un engagement nouveau de la population pour cette nouvelle république. Et c'est là, c'est sous la direction de Joseph Kabila comme président. En rapport avec l'Est, vous savez, à plusieurs reprises, le chef de l'État est non seulement descendu personnellement dans le front, mais également, il y a eu des émissaires, il y a eu des missions, même des membres du gouvernement qui sont descendus sur les lieux. C'est au travers, disons, de ces missions qu'on a dû dégager l'idée de la table ronde sur la paix et la sécurité, les développements du nord et du sud Kivu. Mais également, il y a d'autres actions qui ont été réalisées sur le plan économique. Vous savez, actuellement, grâce au travail qui a été réalisé en 2007, nous avons pu reprendre langue avec les institutions de Bretton Woods. Et non seulement cela, il y a des investisseurs à gauche, à droite, qui commencent à faire confiance au Congo. Et ça, c'est au crédit de celui qui dirige le pays.
Je rappelle que Victor Ayobi, vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre et correspondant du Forum des As, qui est publié ici à Kinshasa. Nous avons également lu Paul et Ngassana du desk politique du quotidien Le Potentiel, parisien également ici à Kinshasa. Y a-t-il eu rupture ou pas par rapport à ce premier anniversaire de la présidence de Kabila en tant que premier chef d'État élu au suffrage universel direct?
C'est un bilan mitigé. Je m'explique. Sur le plan politique, il y avait des objectifs que le chef d'État s'est assigné, notamment à l'Est. On a des problèmes, effectivement, en dehors de l'Ituri qui reprend un peu vie. Il y a des affrontements au Kivu, c'est assez regrettable. Nous pensons bien que la partie où le chef d'État était élu, il fallait nécessairement que ce soit là où on devait reconnaître qu'il y a la paix. Sur le plan politique, je continue. Nous avons des institutions, c'est une bonne chose. On a la constitution qui commence à être appliquée, mais comme je vous ai dit, c'est mitigé parce qu'on attend pour le moment qu'il y ait la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Cet aspect n'est pas encore terminé. Nous avons aussi un effort à fournir pour voir du côté de la sécurité de l'armée. Le brassage pose problème. Nous avons recouru maintenant à la MONUC pour pouvoir former des militaires. Mais ça, c'est une des conditions essentielles pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un peu une certaine stabilité politique. Et sur le plan économique...
Ah, ça, on va rentrer.
Ah bon, merci beaucoup. Je m'arrête là, alors, dans un premier temps.
Passons maintenant à notre volet économique qui constitue le deuxième thème de cette tribune de la presse rétrospective des grands événements de l'année 2007. C'est le vendredi 14 décembre 2007 que le projet de loi budgétaire 2008 a été adopté à l'Assemblée nationale. Il est de l'ordre de 3,6 milliards de dollars américains au lieu de 3,3 milliards de dollars comme initialement présenté par le Premier ministre Antoine Gizenga le 27 novembre 2007 devant les députés nationaux. Ce budget a été enrichi par la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale et il a été transmis au Sénat pour une autre lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Justement, comme vous parliez économie, peut-être un petit bilan du chef de l'État de cette première année du point de vue économique avant que nous puissions entrer dans le budget.
Effectivement, sur le plan économique, il y a eu cet effort fourni par le gouvernement, notamment le chef de l'État qui mène la barque. On a renoué avec les institutions de Bretton Woods, mais qui ont refusé de nous aider la fois passée, mais cette fois-ci, il y a un apport assez substantiel de la part des institutions, bien de la communauté internationale, pour appuyer notre budget. Mais ce budget-là, le Sénat a examiné ça. C'est un budget scandaleusement antisocial.
J'ai aussi sous mes yeux le potentiel de ce vendredi 21 décembre 2007 et on y lit à la une, budget 2008, le Sénat crie au scandale. Qu'est-ce que votre journal a voulu dire par là?
On a occulté la question des chaînes chantiers du chef de l'État et parmi les chantiers, il y a eu l'emploi. Dans l'emploi, il y a des problèmes sociaux énormes. Il y a plusieurs parties par la grève et on avait promis, le gouvernement avait promis aux fonctionnaires d'appliquer l'accord de Mboudi, ce qui n'est pas le cas. Même l'année prochaine, il n'y aura pas l'application de cet accord et ça pose problème. Il y a, sur cet aspect-là, il y a on a essayé d'améliorer les recettes de l'État par des accords miniers, mais malheureusement, on a un peu fagoté, ficelé ce genre d'accords au point qu'on demande de réexaminer ça. Et ça n'apporte pratiquement rien dans le budget actuel.
Victoire Eyobi, vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre et correspondant du Forum des As. Est-ce que ce budget répond aux besoins urgents, même ce budget réaménagé au niveau de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il répond aux besoins urgents du pays?
Au niveau du magazine Entreprendre, Claude, nous avons toujours soutenu que le budget de la RDC, un budget fait pour 60 millions d'habitants, était pratiquement insignifiant. À voir seulement des pays tels que l'Angola qui est à côté de nous, qui a 33 milliards de dollars pour 2008.
Mais ils ont plus de ressources pétrolières que nous.
Exactement,
diamants,
nous n'avons pas seulement que le pétrole, nous avons le diamant, nous avons le coltan, nous avons tous ces minéraux au niveau du Katanga, dans le Bandundu, et c'est ce qui... Ça pose là le problème de la mobilisation de toutes ces ressources, de la capitalisation de toutes ces ressources. Et c'est de ce côté-là, je crois, que nous, Congolais, que le gouvernement doit travailler pour les années à venir. Le budget ne reflète que l'état de nos recettes, l'état de notre force de travail. Donc, si nous pouvons parier pour un budget de 5 milliards en 2008 ou en 2009, nous pouvons le faire, mais à condition de fermer certains robinets. Vous savez, il y a la corruption, il y a la fraude, il y a encore les institutions publiques qui pèsent lourdement avec tous ces fictifs dans la fonction publique, avec toutes ces institutions éléphantesques. Moi, je crois que c'est autant de robinets qu'il faut fermer et voir comment redynamiser le travail de régie financière. Mais il y a également le travail au niveau des contrats miniers. On a autant de contrats miniers, mais qui ne rapportent pas au Congo.
On va parler de ces contrats miniers, notamment avec la Chine. Maurice Bokoko, vous êtes directeur des informations de Canal Congo Télévision CCTV. Le projet de budget 2008 a été adopté le vendredi 14 décembre 2001 à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire vendredi passé. Il a été amélioré, puisqu'il est passé de 3,3 milliards à 3,6 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est, il répond cette fois-ci aux besoins urgents de la population congolaise?
Je ne crois pas que ce bilan est ce budget puisse répondre aux besoins réels de la population. Nous l'avons dit effectivement la fois passée, c'est un sujet qui revient pour la deuxième fois, nous l'avons dit. Je pense que ça c'est mon point de vue, bien sûr. Je suis désolé de pouvoir dire que ce bilan ne reflète rien à la réalité. Et vous avez vu, les décrets continuent, on n'a pas tenu compte de réalité des citoyens congolais. Quand on parle de budget, on devait effectivement demander par exemple, lorsqu'on parle de mobilisation de recettes, il fallait effectivement organiser les institutions financières, les régies financières chez nous. Mais voilà, on vient de couper. On veut dénommer de personnes, peut-être pour chercher à faire mieux. Mais est-ce que vraiment les anciens ont des mérites? On a vu comment Bokolo, par exemple, le DG a fonctionné. Il a passé un travail qui a été apprécié par
le monde. Mais comment est-ce qu'il vient, les nouveaux mandataires ont été nommés? C'est suite à ce concours qui avait été organisé par le gouvernement ou avec l'appui de certaines structures spécialisées où ils ont été nommés sans passer par ce test?
Je ne crois pas, je n'ai pas la précision, mais je voudrais savoir, je vous ai dit tout simplement que, puisque le travail a battu par le Colombien, par exemple, a été apprécié, même par le gouvernement, comment pouvait-on laisser passer quelqu'un qui a trouvé un bon travail? Ou même chez les Allemands au niveau de la générale, à l'époque où Kata était directeur général, le travail était très bien fait parce que même une équipe de Fonds monétaire international est venue au Congo et a traité le travail. Malheureusement, tout ça était parti. Donc ici, je ne crois pas que le travail soit bien fait à ce niveau-là. Le budget est vraiment dérisoire et nous avons toujours des problèmes. On a parlé de d'accord de Bouddhisme. Bien été fait. La crise continue. Maintenant, supérieur.
On va parler de la grève dans la troisième partie de cette émission. L'année 2007 a été aussi marquée par le contrat signé entre le gouvernement congolais et la Chine, contrat portant sur la construction en RDC par la Chine des infrastructures telles que des routes, des hôpitaux, des universités, en échange de quoi la Chine exploitera les ressources minières du Congo. Dans son discours du 6 décembre 2007, à l'occasion du premier anniversaire de son mandat, le chef de l'État congolais Joseph Kabila donnait le sens de ce contrat avec la Chine, contrat ayant défrayé la chronique en 2007, tant sur le plan national qu'international, suivant les propos de Joseph Kabila.
Puisque les institutions financières chinoises disposent de liquidités importantes et que leur pays a des besoins importants en ressources naturelles, notamment minières, pourquoi ne pas conclure avec eux un accord où chaque partie trouverait son compte? En échange de concessions minières, exploitées en partenariat avec des entreprises publiques congolaises, donnant de l'emploi aux Congolais et produisant de la valeur ajoutée localement, les banques chinoises acceptent de contribuer au financement de nos cinq chantiers. pour la première fois dans notre histoire, le peuple congolais pourra enfin voir à quoi aura servi son cobalt, nickel ou cuivre. Tel est l'esprit des accords avec la partie chinoise. Ils ont été conclus en toute transparence et nous sommes prêts à conclure des accords similaires avec d'autres partenaires.
Lupol Eyinga Sana, le chef de l'État dit que enfin le peuple congolais pourra savoir à quoi aura servi ces minerais de cobalt, de cuivre, etc. Est-ce que vous partagez le même avis que le chef de l'État quant à ce contrat avec la Chine qui a des liquidités et nous on a besoin de routes, des hôpitaux, etc.
D'accord, je vous renvoie tout simplement à l'analyse des parlementaires. Que pensent les parlementaires de ce contrat? Ils ont interpellé, c'est une façon de dire, ils ont interpellé le ministre du budget à ce sujet-là, parce que, et le gouvernement, on n'a pas assez de détails sur ce contrat-là. On n'a pas de détails, ils vont construire ceci, ils vont faire cela, mais où, comment, financement, en contrepartie, ils vont exploiter quoi? Tous ces détails-là, le Parlement n'en a pas. Et il faut nécessairement qu'on puisse obtenir pour pouvoir apprécier. Le chef de l'État, en faisant son discours, il s'est mis dans la peau de l'exécutif, de quelqu'un qui veut exécuter un programme, mais nécessairement, il devait se référer, comme il l'a fait, au Parlement. On attend que le Parlement puisse obtenir tous ces détails-là. Jusqu'à ce jour, nous n'en avons pas. Même nous, de la presse, on n'a pas de détails sur ce contrat-là.
Pourquoi, d'après vous?
Je pose la question au gouvernement ou bien au président de la République.
Est-ce que Victoire Eyobi, malgré le fait que, comme le dit Lupol Eyinga, qu'on n'est pas, peut-être que le Parlement n'est pas encore des détails sur ce contrat avec la Chine, encore moins la presse, vous pensez que ce contrat en vaut la peine, d'autant plus que le chef de l'État dit que ce contrat permettra au Congo la création de certains emplois, les banques chinoises ont des liquidités, et nous on a des besoins en termes de routes, des hôpitaux, des universités, etc.
Oui, je crois, comme nous venions de le relever tout à l'heure, que notre budget était insignifiant. Ce n'est pas avec les 3,6 milliards que nous pourrons reconstruire les routes, les écoles et autres.
Donc vous pensez que le chef de l'État, quand il dit que les Chinois ont accepté de financer ces 5 chantiers, donc vous inscrivez sur cette même ligne?
C'est tout à fait normal. C'est parmi les voies par lesquels nous devions passer pour la reconstruction. C'est-à-dire, il y a certes le secteur officiel, c'est-à-dire bilatéral, multilatéral, mais il faut également que nous puissions nous tourner vers des privés qui disposent de milliards de dollars, qui disposent de l'argent et qui sont prêts.
Mais on ne voit pas cet argent dans le budget de l'État. On ne voit pas les traces de ces 8,5 milliards de dollars dans le budget, dans le projet de budget 2008.
Ces financements, c'est une disponibilité des liquidités que les Chinois mettent à la disposition, permettez-moi, des opérateurs économiques congolais qui vont travailler en partenariat avec les Chinois. Si toi, Claude, tu veux reconstruire une route, tu peux également aller toucher de cet argent-là, à condition d'accepter de voir comment on va rembourser. Alors, le gouvernement n'a fait que donner certaines orientations, certaines indications. Dans les domaines miniers, vous le savez, les Chinois vont travailler en collaboration avec la GECAMINE. Avec la GECAMINE, vous savez, la GECAMINE dispose d'un vaste territoire minier dans lequel beaucoup d'entreprises sont en train actuellement de travailler. Donc, c'est tout à fait normal que grâce à ces cash flows, d'autres entreprises puissent se créer et travailler en joint venture avec la GECAMINE.
Mais quand est-ce que les Chinois vont commencer concrètement?
C'était prévu pour fin décembre. On attend jusque-là le démarrage des travaux.
Maurice Bokoko, vous êtes directeur des informations de Canal Congo Télévision, CCTV. Est-ce que vous voulez bien placer un mot en ce qui concerne ce contrat signé entre le gouvernement congolais et la Chine?
Oui, je suis très pessimiste. Parce que justement, quand les Chinois portent leur argent, ils viennent exploiter, ils viennent bien travailler au Congo. Mais où vont-ils travailler? Le chef de l'État parle de mines, de chantiers miniers.
Allô? Allô? On vient de perdre Maurice Bokoko, on va chercher à le récupérer. L'année 2007 a aussi été marquée par les différentes grèves à travers le pays. Tenez par exemple au début de l'année scolaire 2007-2008, les enseignants ont débrayé pendant plusieurs semaines avant de trouver un compromis avec le gouvernement. S'en est aussi suivi la grève des fonctionnaires de l'État, celle du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, qui continue d'ailleurs sa grève. Puis depuis ce matin, celle des médecins de Kinshasa. À l'origine de la grève des médecins de Kinshasa, c'est le quota alloué à la santé pour l'année 2008 par l'Assemblée nationale qui s'avère insignifiant d'après les médecins de Kinshasa. Ceci est contraire au protocole d'accord arrêté lors des précédentes négociations, selon toujours ces médecins. Des précisions avec le docteur Mankoy, président du syndicat national des médecins Sinamed. Il est interrogé par notre consoeur Olga Ndombassi.
Ce qui a exacerbé le médecin, c'est le vote du budget 2008 à l'Assemblée nationale. Ils n'en ont pas tenu compte. Premièrement, c'est quoi? Le réajustement de la prime des risques professionnels que le médecin attend depuis le 11 mai 2006, alors que la base de référence a déjà subi deux réajustements et que pour le médecin, le gouvernement n'y tient pas compte. Le médecin a demandé au gouvernement de respecter les promesses qui nous ont été faites par le gouvernement de transition. Comment maintenant les médecins peuvent-ils croire aux promesses que les autorités donneront? Le gouvernement met, ça arrive de preuve, la conscience des médecins et leur bonne foi. Nous n'avons pas été en grève, nous attendions qu'on réalise les promesses données et nous sommes surpris.
Maurice, beaucoup de choses sont déjà en ligne. Louis Paul Eyenga, vous êtes du desk politique du quotidien Le Potentiel. Quelle est votre lecture par rapport à toutes ces grèves ayant émaillé toute cette année?
C'est qu'il y a absence d'une politique sociale.
Mais quand les médecins disent que le gouvernement Gizenga n'a pas respecté les promesses faites par le gouvernement de transition, est-ce que c'est au gouvernement de Gizenga de réaliser les promesses faites par le gouvernement de transition, 1+4?
Je réponds ceci, il y a absence d'une politique sociale vraiment appropriée de la part du gouvernement Gizenga. Lorsque nous avons signalé ici qu'il y a eu grève, et hier, jeudi, le sénateur Bobolico est revenu sur cette question-là, des grèves à répétition. Ce sont des grèves récurrentes parce que il n'y a pas un pacte social entre le gouvernement et les fonctionnaires d'une part, entre le gouvernement et les travailleurs. On travaille vraiment à par à coup et on réagit suivant l'événement.
Pourtant, le gouvernement ne manque pas d'associer les certains syndicalistes de la fonction publique au réajustement du budget, comme ce fut le cas avec ce budget, projet de budget 2008.
Je souhaiterais que vous puissiez passer une journée à suivre les débats au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat, pour voir si réellement ce que vous dites là est exact.
Non. Vous avez dit le président de l'Assemblée nationale.
Mais justement, parce que il y a syndicats et syndicats. Je donne un exemple. À la fonction publique, il n'y a jamais eu des élections sociales, sauf dans les services de finances, sur les DGI. De Gérard ou Yofida. Mais en dehors de ça, les ministères, il n'y a jamais eu des élections. Et c'est un élément qui fait que on puisse avoir des dysfonctionnements et des contradictions entre les syndicats de l'État et le gouvernement. Merci beaucoup.
Oui, Victoire et Yobi. Quelle lecture faites-vous par rapport à toutes ces grèves à répétition? Il semble que le gouvernement Gizenga n'a pas eu droit à un état de grâce comme c'est le cas dans plusieurs autres pays.
Oui, c'est tout à fait normal. Cela traduit l'engagement, la volonté et même les espérances que les masses travailleuses se font vis-à-vis du nouveau pouvoir. Alors, du côté du pouvoir, on attend plutôt un véritable rêve, une véritable vision, dans le sens de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs congolais. Déjà, vous savez, avec Mboudi, on a fait rêver les travailleurs congolais, mais c'est dans l'application où il y a eu des problèmes. Moi, je crois que si tous les trois mois, on pouvait ajouter 2%, 3%, 4%, ça pousserait davantage les masses travailleuses, plutôt que quelque part de les suspendre ou de les abandonner avec un rêve qu'on a nourri dans leur cœur, mais qui, dans l'application, ne les réalise pas.
Mais on compte les moyens, le gouvernement n'a peut-être pas encore des moyens avec un budget de 3,6 milliards de dollars.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a un problème des rêves. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le gouvernement qui promet et qui réellement a des petits moyens, mais de l'autre côté, il y a comment le gouvernement pense investir davantage cette masse laborieuse dans le travail, dans la production, de telle sorte que l'année prochaine, nous puissions avoir un budget de 5 milliards et l'année qui vient de 10 milliards. L'Angola déjà nous donne l'exemple avec 33 milliards. Moi, je crois que si nous avons 33 milliards dans ces pays, nous saurons répondre à certains besoins.
On me dit que Maurice Boboko est maintenant en ligne. Est-ce que vous pouvez d'abord terminer votre idée par rapport au contrat signé, au contrat minier signé avec la Chine et puis intervenir rapidement quant au grève à répétition qu'on a constaté pendant cette année 2007, parce qu'on est presque à la fin de l'émission.
Oui, il faut s'agissant de l'argent des Chinois, je dis que je suis pessimiste, parce que si effectivement les Chinois veulent investir dans notre pays, nous devrions nous-mêmes déjà être prêts. Mais cet argent qui vient va être investi où? On parle de mines, le président parle de mines, mais ces mines-là, ça sera où? Dans quel coin du pays? Ça, c'est un. Et deux, le président voudrait que l'on voit le quota du Congo, à quoi il sert. Mais c'est pas maintenant, c'est seulement après qu'on pourrait mesurer seulement si réellement c'est de l'argent apporté par les Chinois ont été bénéficiés pour le Congo.
Il ne peut pas déjà
chanter aujourd'hui. Donc, personnellement, je suis pessimiste parce que nous ne sommes pas prêts au niveau congolais. Nous n'avons pas, comme a dit Mwamba, le Nora de Mwamba, nous n'avons pas de laboratoire, d'études. Il y a rien qui a été fait. Donc il faut commencer, même quand on dit le Congolais doit collaborer avec les Chinois. Mais il faut que nous ayons déjà des banques de données. On n'en a pas. Les Congolais n'ont pas été préparés pour ça. Donc
merci.
Cet argent-là, nous risquons encore de mettre du temps parce qu'il faut laisser aux Congolais le temps de se préparer, de voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir cet argent des Chinois.
Bon, allez-y maintenant. Allez-y, en ce qui concerne les grèves.
En s'agissant des grèves, c'est tout à fait normal. Quand le pays, quand on promet aux gens de bonnes choses, eh bien, les gens ne peuvent que réagir. Si effectivement, on avait fait comprendre au Congolais que nous avons des difficultés, qu'il faut travailler, qu'il ne faut pas demander encore de l'argent, tant que le Congolais ne travaille pas encore, les gens allaient bien comprendre. Mais quand vous promettez aux gens que non, le lendemain sera meilleur, que vous aurez autant, il faut commencer par respecter la promesse faite. Donc il ne faut pas vendre la faute de l'histoire de la partie. Ici, on a promis aux gens de faire des choses alors que le gouvernement n'a pas de moyens de sa politique.
Merci beaucoup.
On va continuer, bien sûr.
Merci beaucoup. Vous vouliez placer un petit mot rapidement, quelques secondes.
Exactement, c'est à ce propos-là, il faut que le gouvernement puisse planifier son action. C'est très important. Nous avons la nette impression que tout ce qu'on fait, on fait du replatage. Et c'est assez malheureux. Il faut qu'on réhabilite le ministère du plan.
Merci beaucoup. C'est par vous, Louis-Paul et Ngassana, que nous terminons cette tribune de la presse rétrospective des quelques grands événements qui ont fait l'actualité en 2007. Merci à nos confrères donc d'avoir participé à cette tribune de la presse. Kéline Kout était à la réalisation et Mimi Kindo à la mise en onde. Au revoir et bon week-end.